Il y a les vétérans, des médaillés à 300 ou 1000 paraboles, presque aussi difficiles à imaginer qu'une journée de Brahma. 1000 Maha Yuga de 4 millions d'années chacun. Il y a les habitués qui ont mis bout à bout des fragments d'expérience de 22 secondes. Enfin, les primo-volants, vierges et candides, émerveillés d'avance, surpris de se laisser accoutrer dans une combinaison évoquant le bleu de chauffe et la tenue du capitaine Haddock. Patron laïque de l'expérience d'apesanteur. Ceux qui, miraculeusement, ont déjà volé, sont censés détenir un savoir inaccessible aux autres. Ils le conservent en souriant. Moitié bonne blague, moitié volupté illégale. Mais ils le partagent volontiers. Ce qu'ils disent alors de l'impesanteur et de l'unique, l'incomparable, l'immanquable, l'inoubliable première fois donne lieu à des explications remplies de bonne volonté pédagogique. Elles ont recours aux métaphores. Le primo-volant se concentre pour son premier vol, pour ses premières paraboles, pour la première de toute la série, et par-dessus tout, ses premières secondes. Il accorde énormément d'importance à ses préludes de préludes. Ça lui rappelle le point unique à l'initiale du premier mot du premier verset de la première sourate du Coran qui contient le Coran tout entier. Il sait bien sûr pouvoir gâcher cette première fois. C'est si facile de gâcher les expériences pour lesquelles on préconise avant tout l'abandon. C'est difficile d'être à la fois concentré et nonchalant. Des mains me retenant depuis toujours décident de me lâcher au même instant. D'un commun accord. Elle m'a grippé jusque-là pour mon bien, peut-être. Peut-être par souci de rester cohérente avec un monde de contrariété et de prudence. À l'instant, comme la plupart de mes voisins en liberté dans cette nef, je me sens livré à autre chose. Pour ainsi dire, bazardé, aimablement, en douceur, sans malice. Poussé dans un autre monde où cette liberté-là, celle de flotter, a lieu. Une liberté des plus banales. Difficile d'être attentif les pieds au plafond, mais à proprement parler, selon des lois cosmiques, le plafond n'est plus un plafond. Difficile de raisonner, restent seulement les sensations. Pour réfléchir, on repassera. On attendra le moment de retomber sur ses deux pieds. Faute de mieux, on constate. On constate par exemple, en s'étonnant un tout petit peu, que l'impesanteur s'exerce de tous les côtés à la fois. Pas seulement vers le haut, mais sur les flancs, entre chaque doigt et les orteils. L'impesanteur n'est pas directive. Elle ressemble alors à un épanouissement. La légèreté de soi à l'intérieur de soi. Pour qui se trouve à Samarcande cesse d'être exotique. Pour les mêmes raisons, l'impesanteur cesse d'être une anomalie au moment où l'on flotte. Flotter est étonnant, nous sommes d'accord, mais appartient du seul fait d'advenir à la catégorie du vraisemblable. Voilà pourquoi flotter de ci, de là, dans la cabine et faire des cabrioles en bousculant des camarades tout aussi impondérables, flotter sa compagne à la fois d'incrédulité et d'approbation. Accepter une réalité impossible se fait dans l'euphorie et avec sang-froid. Vient par exemple le moment où l'on trouve vraisemblable de voir flotter de gauche à droite une bouteille d'eau minérale. Mais enfin, soyons honnêtes, l'émerveillement l'emporte, accompagné d'une euphorie un peu idiote. Le primo-volant a bien pensé fermer ses poches. L'imposanteur rêvé est un fragment des mille et une nuits. L'imposanteur réel exige d'affronter des problèmes triviaux. Pour s'en tenir au sordidissime cher à Pascal Quignard, les toilettes sont le lieu où se concentrent de façon exacerbée les débats à propos du comportement des fluides. Ça oblige les organisateurs du vol en gravité zéro à appliquer par prudence des verrous sur les portes. Voilà pour la chasse d'eau, qui aurait donné naissance à un brouillard encombrant. Mais si quelqu'un éternue, est-ce qu'il se met à rétrograder loin de ses postillons? Et ces postillons vont-ils nuire aux expériences en se déposant au mauvais endroit, imperceptiblement? Et du coup, enfreindre les lois de la relativité générale. Ceux qui doutent ne voudront jamais en démordre. En avion 0G, l'impesanteur est une illusion. Comme est illusion le lever du soleil ou le mouvement rétrograde de Vénus. Elle est une mise en scène. La Warner Bros. En fait moins bien dans le genre. Elle est une farce crédible et émouvante. Comme l'avouent les savants eux-mêmes, l'impesanteur n'est qu'une chute prenant un long détour. Les partisans de la chute, ceux pour qui seule la gravité existe, accueillent avec joie, joie du vainqueur, la définition donnée par les pilotes au cours d'une conférence, être un impesanteur égale être en chute libre. Qui veut vraiment céder au rêve de l'envol peut faire confiance aux astuces de Cyrano de Bergerac. À la taille, une ceinture de flacon remplie d'eau de rosée et l'aube pour que l'eau s'évapore, l'évaporation entraînant vers le haut son passager. C'est une fable bergeracienne tenant compte de la science. Du moins, s'appropriant quelques-uns de ses accessoires. Des fioles, un raisonnement, le sens de l'observation, l'énergie du soleil, le goût de l'expérience risquée et un aplomb quantitatif prêt à se mesurer aux faits. Des siècles plus tôt, Lucien de Samosate, voyageur parti des colonnes d'Hercule, s'est contenté de laisser les vents de la tempête soulever son navire jusqu'à une sorte d'île aérienne brillante, sphérique et vivement éclairée, la Lune. Maintenant, pour reproduire les conditions de l'apesanteur, l'homme moderne a le choix entre les artifices de Hollywood, les stations orbitales et cette succession de paraboles en avion. Elles sont une simulation, un mensonge comptant sur notre crédulité, l'oubli volontaire de la chute libre pour postuler l'apesanteur. Mais elles ne sont pas de la fraude à proprement parler. Si la parabole est un très court fragment d'ellipse, elle est un fragment d'orbite. Une orbite maigre et allongée, mais enfin, une orbite véritable. Du coup, l'impesanteur en Airbus n'est plus une impression frappante volée à la réalité physique, mais une impesanteur authentique. Ceci dit en passant, Cyrano de Bergerac n'a pas composé seulement des fantaisies de voyage vers la Lune. Il a aussi rassemblé un fragment de physique, lequel contient une explication des miroirs. On y trouve ce paragraphe. Une pierre continue de se mouvoir, pour cela seulement qu'à l'aide de notre main, elle a déjà commencé et continue toujours de son agitation prompte ou lente, selon qu'elle a commencé avec vitesse ou lenteur. C'est pourquoi, quand nous voyons qu'un corps s'arrête, alors seulement nous devons en chercher la cause. Étude expérimentale de la combustion des brouillards. Voilà l'une des expériences menées au cours de ce vol par des chercheurs attentifs, parfois des étudiants, qui ont toujours au moins l'un des deux pieds glissé sous une courroie pour bien se tenir. Étude expérimentale de la combustion des brouillards. Elle vaut pour son titre au moins autant que pour ses résultats. Le plaisir pris à imaginer pendant un court instant ce brouillard combustible persiste après l'explication. Il ne disparaît pas, au contraire. On gagne parfois à en passer par certaines désillusions pour accéder à un enchantement supérieur, plus mûr et mieux renseigné. D'autres expériences s'intitulent ébullition convective en micro-pesanteur ou dynamique d'une suspension de globules rouges ou audition et perception du sentiment de soi. Des titres rappelant ces ouvrages de mathématiques ou de physique arabe comme le livre de la balance de sagesse de Al-Kazini, la succion du nectar de Al-Katravani, le soulèvement de la tunique de Al-Kalazadi, ou l'épître sur l'arc-en-ciel et le halo de Ibn al-Haytham. Pendant que nous folâtrons, quelqu'un dans la carlingue vide et moelleuse de l'Airbus s'efforce de refroidir un atome de rubidium et un atome de potassium grâce à des interféromètres atomiques, le tout pour tester le principe d'équivalence faible. Un autre se préoccupe de rhéologie, preuve qu'une fois mis de côté l'auteur en résidence, le sérieux règne là-dedans. Bien sûr, on voit flotter un peu partout un bon nombre de mascottes en peluche. Un chien, un ours, un lapin, une tortue. Mais pour le reste, on manipule surtout des instruments sévères. Les lapins, en plus, sont là en tant qu'ambassadeurs de la superstition au pays des sciences positives, ou bien pour servir de test, comme les canaries des mines de charbon, ou pour porter chance, comme ces pendentifs qui ornent la cabine des chercheurs chinois, ou pour perpétuer en vol une tradition de naïveté ludique, ou pour faire contraste l'ours en peluche versus les disques durs, ou témoigner de quelque chose. L'expérience de l'impesanteur rappelle à quel point la gravité universelle est un facteur d'ordre, de civilité, de rangement et de cohérence. Livrés à eux-mêmes en gravité zéro, les individus les plus sérieux perdent toute contenance. Devenus instables avec la légèreté d'un beignet dans l'huile, tout à la frivolité de la friture. À se demander si la courtoisie est encore concevable en impesanteur ou si ce vieux concept médiéval, la courtoisie, ne viendrait pas à disparaître à la longue dans une station orbitale. D'ailleurs, cette question et d'autres méritent d'être posées à des lecteurs de Platon et de Montesquieu. Quelle espèce de régime politique impose sur le long terme une vie communautaire dépourvue de l'apesanteur ? Ministres, bourgmestres, gardiens de la paix, flottant de tous les côtés comme s'ils étaient au bal. Une fois revenus sur la terre ferme, les scientifiques retrouvent le chemin du sérieux au cours d'une cérémonie grave intitulée « Briefing ». L'impesanteur est alors un souvenir immédiat, encore imprimé dans la chair, comme un bain chaud, ceci dit pour vous donner une idée. Après quoi, le lendemain, elle est source de nostalgie.
Merci beaucoup.